Je vais prier avant de commencer ce message. Notre Dieu, nous sommes bien petits devant toi. Comment pouvons-nous te comprendre, toi, dont les voies sont insondables? Nous sommes de la poussière de la terre et tu es le Dieu infini et éternel. Nous voulons donc nous arrêter devant toi et devant ta parole en t'exprimant, ô notre Père, notre profond besoin de ton esprit pour nous ouvrir les oreilles et le cœur. Nous aimons ta parole. Combien nous aimons que tu nous parles. Ta parole dénoue tous les nœuds de notre péché, de notre personnalité. Parle-nous, Seigneur. Parle-moi. Amen. Le royaume de Dieu ou mon petit espoir, lequel est-ce que je vais vivre? Nous lisons ensemble dans le livre de Jérémie. Désolé pour le mot anglais que mon logiciel a mis sur le titre du livre. Mais nous lisons que Dieu nous informe dans sa parole, la parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit, Baruch écrivit, dans un livre ses paroles, sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Josiakim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, donc Jérémie dit de la part de l'Éternel à Baruch, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Et il faut bien l'imaginer, tu es le secrétaire, tu es en train d'écrire les prophéties de Jérémie, et subitement, une de ces prophéties t'est adressée à toi-même, le secrétaire. Tu dis, donc Dieu dit à Baruch, Baruch, tu es en train de dire, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, dit à Baruch. Voici ce que j'ai bâti, je suis en train de le détruire, dit Dieu. Ce que j'ai planté, je suis en train de l'arracher, à savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je fais venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Mais je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Parlons un moment de Baruch et de ses temps. Qui était ce Baruch? Il est né dans le 7e siècle avant Jésus. Sa famille était importante et influente en Israël. Nous pouvons le voir par plusieurs détails. D'abord, son grand-père était carrément le gouverneur de Jérusalem pendant le règne de Josias. Son frère était le chambellan dans la cour du roi Sédécias. Le chambellan, c'est un des intendants du roi qui prend soin de sa chambre et de sa vie personnelle. C'est quelqu'un en qui le roi a d'habitude une grande confiance. Baruch lui-même, il est le meilleur ami, le bras droit et le secrétaire du prophète Jérémie, un des personnages les plus importants de ce demi-siècle, donc juste avant, pendant et après l'exil d'Israël en Babylone. À quoi ressemblait le temps de Baruch? Comme je vous ai dit, juste pour ne pas oublier, Baruch est le secrétaire de Jérémie, les prophéties de Jérémie que nous avons dans le livre de Jérémie, c'est Baruch qui les a lues, écrites sous la dictée de Jérémie. Mais alors, à quoi ressemblait ce moment que Jérémie et Baruch traversent ensemble plusieurs décennies? Alors, il s'agit de 40 ans de ministère, donc Baruch avec Jérémie, qui traverse le règne des cinq derniers rois d'Israël. Le royaume du sud d'Israël, c'est-à-dire la Judée, se précipite en ce moment, mais vraiment se précipite vers une catastrophe politique, sociale, militaire indescriptible. La plupart du royaume sud d'Israël sera massacré. La plupart de ces centaines de milliers de gens vont mourir. Certains de la famine, certains de l'épée, mais ça va être une catastrophe énorme. C'est le moment que Baruch traverse. C'est un temps d'extrême agitation politique, de grandes décisions, avec des enjeux qui vont, oui, concerner toutes ces centaines de milliers de personnes. Et dans les hautes sphères en Judée, les divers partis sont un peu ballottés de droite à gauche par les pires des passions, l'orgueil, et le désir de la richesse, le désir de se protéger, de gagner la faveur de Babylone, toutes sortes de désirs iniques. Enfin, les conseils les plus désastreux, emportent. Et malgré tout ce que Jérémie prophétise et exhorte au roi et au peuple, personne ne l'écoute. Pratiquement pendant ces 40 ans de ministère. Donc, Jérémie et Baruch, c'est dans de tels moments qu'ils vivent, c'est de telles expériences qu'ils traversent. Comment est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Baruch? Alors, un premier point ce matin, en essayant de comprendre devant le Seigneur sa parole dans ce texte de l'Écriture, c'est que nous voyons et nous comprenons que même un croyant expérimenté et aguerri comme Baruch peut tomber dans une déprime profonde. Regardez ce qui est dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch, tu dis « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve pas de repos. » Nous voyons vraiment un homme qui est profondément déprimé, découragé, qui, regardez là, il voit tout en noir, il appelle le malheur sur lui-même, il trouve point de repos, il a chagrin sur douleur. Et donc, c'est possible que nous trouvions dans peut-être une moindre mesure ou peut-être une mesure similaire un jour dans cette expérience de déprime, de découragement, de perte de sens, de perte de joie. Deuxièmement, le Seigneur vient toujours à la rencontre de son enfant, il vient à notre rencontre et il nous parle au milieu de telles expériences, au milieu de notre déprime, afin de nous en sauver. Voilà, nous voyons ici dans le texte, après avoir dit à Baruch, l'Éternel, il explique ce que Baruch dit, « Malheur à moi, l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. » « Je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. » L'Éternel dit, « Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. » C'est-à-dire, informe Baruch que je viens maintenant à sa rencontre et j'ai quelque chose à lui dire. Je vais percer à travers l'obscurité de sa pensée et de ses émotions par une parole lumineuse de ma sagesse divine et je vais tout débloquer. Nous voulons maintenant apprendre 5 choses que l'Éternel nous dit pour nous délivrer de la déprime, par la manière dont il délivre Baruch. Et voilà la première chose que nous devons faire lorsque nous sommes dans une situation où nous avons perdu le sens, perdu la joie, perdu le but, le chemin. La première chose toujours que Dieu nous dit, c'est « regarde ton cœur ». Arrête de regarder tes circonstances, arrête de regarder tes malheurs, arrête de regarder ce qui t'arrive, regarde ton attitude, l'état de ton cœur. Ta réaction du cœur aux circonstances est toujours 1000 fois importante que les circonstances. Nous le voyons donc dans ce passage, l'Éternel dit à Baruch ce que Baruch dit lui-même, ce que Baruch dit en lui-même. C'est-à-dire que la première chose que l'Éternel fait, c'est de nous répéter à nous-mêmes ce qui est dans notre cœur. Tu es en train de dire dans ton cœur, malheur à moi. L'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Est-ce que tu ne vois pas ton cœur? Tu es en train de blâmer, d'accuser l'Éternel. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. Regarde ton cœur. Regarde où tu fixes ta préoccupation. Comment tu te regardes? Comment tu regardes, me regardes? Comment tu regardes ta situation? Regarde ton cœur et ton attitude. Sans foi. Tellement retourné en toi-même, tant d'égoïsme, tant de lassitude. Et il fait voir à Baruch, il nous fait voir, nous, souvent, notre apitoiement, parce que quand nous sommes dans la déprime, il y a toujours un malheur à moi. Il y a toujours une sorte d'apitoiement. Et c'est malheureux, les amis, parce que aucune situation n'est en elle-même le problème. Toute situation, quelque grave qu'elle soit, est une opportunité dans la main de Dieu. Nous avons chanté dans un des chants tout à l'heure, tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien, c'est-à-dire le chemin du Seigneur. Pensez à Marthe et Marie. Au jour où leur frère meurt, eh bien, cet événement accablant devient le terrain d'un miracle, la résurrection de leur frère. Donc, apitoiement est dans son cœur, victimisation, l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Pas du tout, pas du tout. C'est toi-même qui ajoute le chagrin à une situation douloureuse. C'est toi qui te plonges dans le chagrin. Lassitude. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. Il est extrêmement important que nous regardions vers nous-mêmes et que nous arrivons à ce point où nous voyons que le problème, c'est moi. C'est le péché dans mon cœur. C'est mon égocentrisme. C'est mon incrédulité, c'est mon désir d'avoir du confort, c'est ma volonté entêtée qui dit « moi je veux pas d'épreuves difficiles ». C'est toutes ces attitudes horribles dans mon cœur qui m'ont mis dans cette déprime-là. Alors que d'autres passent par les mêmes événements et les utilisent comme des opportunités. Nous avons donc une question à nous poser. Est-ce que mes difficultés sont des malheurs qui m'irritent et me dépriment ou des opportunités que Dieu m'envoie pour servir son plan, grandir moi-même et toucher d'autres vies? Voilà une question qui doit revenir souvent. Et le texte de l'Écriture nous y pousse. Il y a une différence de destin entre les deux attitudes représentées dans cette question. Une personne devient quelqu'un qui murmure et se plaint constamment, qui ne va jamais nulle part, qui ne touche pas une autre vie parce que sa vie est en miettes. Sa vie est toujours dans la frustration, dans l'irritation, dans la tristesse. Alors qu'une autre personne qui traverse des choses même plus difficiles, elle les prend dans la foi en Dieu, avec un cœur croyant et tourné vers Dieu, cette personne prend les mêmes circonstances comme des opportunités, il sert Dieu, il grandit lui-même et il touche d'autres vies. Les gens le regardent, comment est-ce qu'il vit ces choses comme ça? La deuxième des cinq choses que nous devons faire quand nous sommes dans cette déprime, après avoir regardé notre cœur et après la repentance pour nos attitudes mauvaises, nous devons regarder ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde. Je dis bien dans le monde, j'agrandis l'horizon parce que c'est justement là le problème de Baruch. Nous lisons, dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, et maintenant, rappelez-vous que Baruch vient de parler de son petit monde, sa petite histoire, ma chagrin, ma douleur, mon repos que je ne trouve pas, mes soupirs, et voilà ce que Dieu lui dit. Il détourne ses regards vers quelque chose de beaucoup plus vaste que l'Éternel fait. L'Éternel parle de lui-même et il dit, voici ce que j'ai bâti, c'est-à-dire le peuple de Dieu, ce royaume en Israël, pour représenter Dieu au monde entier, un monde païen. Voici ce que j'ai bâti, je suis en train de le détruire. Parce qu'à cause du péché d'Israël, Dieu doit laisser tomber une discipline, un châtiment horrible sur le royaume. C'est la fin de ce royaume d'Israël. C'est le début de la fin d'une chose gigantesque dans l'histoire humaine. Le seul peuple depuis la chute d'Adam qui lut le seul Dieu véritable, et ce peuple va maintenant aller au désastre. Ce que j'ai bâti, ce peuple que j'ai chéri, que j'ai aimé, je suis en train de le détruire. Ce que j'ai planté, je suis en train de l'arracher, à savoir tout le pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je fais venir le malheur sur toute chair. Regarde ce que je suis en train de faire dans le monde. Regarde ce qui est en train d'arriver par ma main dans le monde. Regarde l'histoire dans laquelle tu t'insères, dit l'Éternel, mais je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Nous devons regarder ce que Dieu est en train de faire, parce que tu ne peux pas comprendre ta situation personnelle qu'en te voyant dans le grand plan de Dieu. Ben, Baruch, réveille-toi! Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que tu vis en Israël au moment où Dieu fait tomber un châtiment salutaire et saint sur ce peuple. Et c'est un moment de transition, de grands enjeux dans l'histoire humaine tout entière. Et tu es au milieu de tout ça. Réveille-toi, comprends la situation où tu es. Peut-être dans cette crise actuelle dans le monde, en Europe, en France, nous avons aussi besoin d'arrêter de nous plaindre, de ne pas pouvoir faire ceci ou cela, ou d'avoir perdu de nos économies ou d'être en chômage pendant un moment. Et je compatis bien avec la souffrance réelle et très difficile de certains. Mais en tant que chrétiens, nous voyons quelque chose de plus grand. Nous voyons la main de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire de nos jours? Est-ce qu'il tire l'histoire humaine vers sa fin? Est-ce qu'il n'est pas en train d'appeler le monde entier d'une manière incomparable, au moins depuis un siècle? Et sommes-nous pris dans cette plus grande histoire? Tu ne peux pas comprendre ta situation personnelle à moins de te voir dans le plus grand plan de Dieu. Ton drame personnel n'est rien comparé à la tragédie que Dieu vit dans l'histoire de l'humanité révoltée. Regardez ces propos, regarde le cœur de Dieu qui est un peu sous-entendu dans ces paroles. Toi, tu penses que tu es triste, tu penses que tu as du chagrin. Moi, ce que j'ai bâti, le peuple que j'ai aimé, je suis en train de le détruire. Ce que j'ai planté de mes mains depuis des siècles et des siècles, je suis en train de l'arracher, à savoir tout le pays. Et tu dis que tu es dans le chagrin. Vous voyez, lorsque nous sortons de cet égocentrisme horrible et que nous regardons notre vie du point de vue du royaume de Dieu dans lequel nous nous trouvons, alors ça change tout. Une autre question à poser. Est-ce que je vis ma vie comme si j'étais un personnage mineur dans une grande histoire de grands enjeux, comme le royaume de Dieu? Ou est-ce que je vis comme le personnage majeur dans une petite histoire qui concerne principalement ma vie, mes proches, mes circonstances? Vous voyez, beaucoup de nos problèmes se situent exactement là. Nous sommes découragés, abattus parce que telle ou telle chose nous arrive. Parce qu'en fait, notre manière de vivre, c'est que nous sommes au milieu d'une petite histoire, une toute petite histoire que nous croyons très grand parce que nous l'avons écrit, ce roman. Nous l'avons écrit et ça tourne autour de nous, notre vie, nos proches, nos circonstances. Et en vivant comme ça, nous nous condamnons à de grands malheurs quand quelque chose nous arrive. Il y a des gens qui professent même être chrétiens et qui vivent comme cela. Ils essaient de croire en Dieu, mais le Dieu en qui ils croient, c'est un Dieu qui veut le faire venir dans leur petite histoire pour que tout aille bien dans leur petite histoire au sujet d'eux-mêmes. Ils pensent que Dieu est là dans mon roman sur moi pour rendre confortable ma vie sans grand problème, pour me bénir dans mes relations avec mes proches et pour me donner des circonstances agréables. Mais vous voyez qu'un tel Dieu n'existe pas. En tout cas, le vrai Dieu ne s'insère jamais dans une petite histoire comme cela. Qu'en est-il de vous? Comment est-ce que vous vivez? Je crois que nous devons tous confesser que trop souvent, nous glissons dans notre péché, dans ce point de vue où nous sommes ce personnage majeur dans une petite histoire que nous faisons nous-mêmes. Le chrétien est appelé à vivre de la première manière, c'est-à-dire la nature même de la vie chrétienne, c'est simplement, dans un sens, c'est simplement de me considérer désormais comme un personnage mineur dans une épopée incroyable qui est vraie, où le Dieu de l'histoire et le Dieu de l'éternité accomplit son plan saint et transcendant. La grande histoire dans laquelle le chrétien se trouve s'appelle le royaume de Dieu. Nous regardons tout de ce point de vue. Regardez ceci. Jésus dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? C'est que ta vie tourne autour de tes petites histoires, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens ont une petite histoire au sujet de leur manger et boire et leurs vêtements et leur bonheur. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez-vous, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Cette histoire beaucoup plus grande. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus du royaume. Voilà un bouleversement radical dans notre manière de vivre, de décider résolument que je suis, en réalité je le suis, que je suis un personnage mineur, pas sans importance, parce que être aimé par Dieu, c'est être investi d'une grande importance. Mais il y a une importance beaucoup plus grande que moi, l'éternel Dieu qui est en train de sauver des millions et des millions de gens, petits gens comme moi, de l'enfer éternel. La troisième chose que nous devons regarder, on regarde notre cœur, on regarde ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde. Et je regarde, tu regardes ce que tu es en train de chercher dans ta vie. C'est ce que Dieu oblige Baruch de faire maintenant. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je suis en train de le détruire. Ce que j'ai planté, je suis en train de l'arracher et savoir tout le pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Nous ne savons pas exactement ce que Baruch cherchait. Quelles étaient les grandes choses qu'il cherchait? Nous savons qu'il était d'une famille importante et influente. Est-ce qu'il cherchait un avenir avec une grande propriété, un grand pouvoir, une grande richesse? Difficile à croire pour un homme de Dieu comme ça. Est-ce qu'il cherchait à avoir un grand impact sur le peuple d'Israël? Alors, ni lui, ni Jérémie n'est écouté par personne. 40 ans de ministère, 40 ans d'essai d'avoir un impact, et rien. Peut-être c'est ça. Mais en tout cas, ce que nous apprenons ici, c'est que souvent notre problème quand nous sommes déprimés, c'est que nous avons recherché quelque chose de grand pour nous-mêmes. Au moment où nous sommes dans un royaume immense et glorieux de Dieu, nous voulons faire un royaume glorieux au sujet de nous-mêmes. Si vous voulez comprendre comment ça marche un peu, pensez à un certain jeune homme français. Il est déprimé. C'est l'année 1939. Il est déprimé parce que les agissements politiques qui précèdent cette déflagration de la Deuxième Guerre mondiale, ces agissements l'empêchent de poursuivre ses études de doctorat et d'accomplir son rêve de devenir un professeur renommé à la Sorbonne. Voilà quelqu'un qui, comme Baruch, cherche de grandes choses pour lui-même. Et voilà une guerre, une catastrophe mondiale immense, un point tournant de l'histoire moderne vient perturber ses plans personnels pour la grandeur. il y a une solution facile pour ce déprime, et c'est arrête de chercher cette grandeur. Il y a une grandeur autour de toi, une guerre incroyable est en train d'éclater, et tu as un rôle à jouer. Ressaisis-toi et sois un homme, même si c'est pour mourir sur un terrain de guerre. Pour nous aussi, nous avons besoin de nous ressaisir, de regarder qu'est-ce que je suis en train de chercher pour moi-même. Jésus nous dit ceci, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur, l'esclave, n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si le Christ, quand il est venu, n'a pas cherché la grandeur, s'il est venu pour être persécuté, refoulé, refusé, et accepter d'accomplir que la volonté du Père, la volonté du royaume, d'être serviteur du royaume. À combien plus forte raison, vous et moi, nous avons besoin d'être attachés à ce but-là. Quatrièmement, nous devons regarder notre cœur. Regardez ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde. Regardez ce que nous sommes en train de chercher dans la vie. Et aussi, regardez la grâce merveilleuse de Dieu envers nous. Regarde comment Dieu termine sa parole envers Baruch. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Pardon, je fais une erreur là. Hop. Car voici, je fais venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et voilà cette parole, il dit à Baruch, mais je te donnerai, je fais venir le malheur sur toute chair, sur le monde entier, mais je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Autrement dit, il va y avoir une catastrophe qui va emporter plein de monde, mais plein de monde va mourir. Mais toi, miraculeusement, incroyablement, tu vas passer à travers tout cela, au plein milieu de tout cela, indemne. Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Parce qu'il faut savoir que de la Judée, certains sont emportés en Babylone et Baruch et Jérémie finissent par être emportés en Égypte carrément. Mais dans tous les lieux où ils vont être amenés malgré eux ou par leur propre volonté, donc c'est la grâce, la bonté du Seigneur et sur cet homme Baruch. C'est ce qu'a vécu l'auteur du psaume 73, qui était lui déprimé. Il s'apitoyait sur lui-même à la vue de la prospérité des méchants autour de lui. Et il avait complètement oublié ce que nous oublions pour pouvoir être des chrétiens déprimés. En principe, c'est impossible d'être chrétien et déprimé. Mais on peut l'être si on oublie la grâce incroyable de Dieu qui fait de nous des rescapés de la plus grande catastrophe qui ait jamais eu, c'est-à-dire l'enfer lui-même. Le psalmiste, en écrivant le psaume 73, dit ceci une fois qui s'est rappelé de la grâce de Dieu envers lui, qui l'a regardé, qui n'a plus oublié qui il était, combien il était un gracié. Voilà ce qu'il dit. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard, Dieu, comme des bêtes. J'étais comme un animal dans la manière dont je te traitais, tellement j'oubliais ta grâce et je te blâmais, je t'accusais. Cependant, et maintenant il se rappelle maintenant de sa vraie position, je suis toujours avec toi. Chers amis, il y a plein de gens dans ce monde catastrophé qui ne sont pas avec Dieu. Ils sont sans Dieu. Sans Dieu dans le monde. Et toi, si tu es croyant, tu es toujours avec Dieu. Le psalmiste se rappelle et il le dit à Dieu, tu m'as saisi la main droite. C'est pas moi qui t'ai cherché. C'est toi qui m'as saisi quand je te cherchais même pas. Oh, que je suis un gracié. Tu me conduiras par ton conseil. Je vis sous le conseil de ta parole. Même quand je suis dans la déprime, tu viens vers moi. Tu viens me réveiller, me corriger, m'éclairer. Tu me conduis par ton conseil. La plupart des gens dans ce monde ne vivent pas au bénéfice d'une telle bénédiction. Puis, tu me recevras dans la gloire. Voilà qui vous êtes, cher ami. Tu es quelqu'un qui est toujours avec Dieu, qui a été saisi par le Dieu rédempteur, qui est conduit maintenant par son conseil et qui sera un jour amené dans sa gloire et sa présence immédiate. Comment peux-tu être une personne déprimée alors que tu es un miraculé tous les jours? Une question à nous poser donc, à quelle fréquence est-ce que je m'émerveille, en tant que chrétien d'être un rescapé d'un monde qui court à sa perte? Un rescapé miraculeusement sauvé par la grâce de Dieu. Oh, béni soit-il, béni soit-il. La dernière chose que Baruch apprend, et nous devons aussi apprendre dans la déprime, c'est que nous devons nous dévouer tout entier à l'appel exalté de Dieu. Maintenant, empreinte d'un sens de sa grâce envers nous, nous étions débarrassés de nos recherches de grandes choses. Nous voyons dans le plus grand plan du royaume de Dieu qui est en train de venir, nous voulons nous consacrer à notre partie, notre rôle dans ce royaume exalté. Quel privilège d'avoir un rôle dans ce royaume. Je vais donc vous montrer ce que je crois être le passage biblique, et je termine ainsi, le passage biblique par excellence pour Baruch, le croyant déprimé, ou nous. C'est dans Philippiens 2. Baruch, ou cher chrétien, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez, oui, dans cette situation difficile, irréprochable et pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Oh, quel privilège, quel rôle, quelle place, quel sens, quelle raison d'être, même dans la crise, ou surtout dans la crise la plus grave. Nous voyons deux parties dans cette phrase de Philippiens. Nous devons embrasser la souffrance pour le royaume de Dieu dans les moments noirs, sans murmure, c'est ce que nous avons discuté jusqu'ici, et nous devons briller autour de nous par une vie sans murmure, et nous devons faire briller la parole de la bonne nouvelle. Vous voyez, Baruch n'est plus dans un état où il brille. Il ne brille pour personne. Personne ne va le regarder et dire « Ah, maintenant je vois comment j'aurais dû vivre, comment je peux vivre avec Dieu. » Il ne peut apporter l'évangile, la bonne nouvelle à qui que ce soit, tellement il est submergé dans sa tristesse et dans son égocentrisme. Mais quand Dieu nous en sort, le malin de notre vie devient l'arrière-fond noir contre lequel nous brillons par le fait que ça ne nous submerge pas dans la tristesse. Que nous montrons que nous avons un salut tellement grand que les situations mondaines et terrestres ne peuvent pas nous noyer. Regardez ce qui se passe, et c'est la fin du message, regardez ce qui se passe la même année où Baruch reçoit ce message de l'Éternel, cette réprimande et cette parole pour l'encourager, le sortir de sa déprime. Voilà, la même année, un peu plus tard, voilà ce qui se passe. La quatrième année de Joachim, c'est la même phrase que nous avions lue dans notre texte. Fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, il est temps d'écrire toutes les prophéties et de faire le livre de Jérémie, le livre biblique que nous connaissons comme le livre de Jérémie. Alors, quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Donc, j'arrive pas à voir tout le texte parce que j'ai une partie qui est cachée, mais donc Jérémie appelle Baruch sous la dictée de Jérémie, Baruch doit maintenant écrire toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Donc tout le livre de Jérémie va être dicté. Puis Jérémie donna cet ordre une fois que Baruch a tout écrit, c'est un long livre. Je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Baruch ira toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple. Peut-être que l'Éternel écoutera leurs supplications et que chacun reviendra de sa mauvaise voie, car la grande et la colère, la fureur dans l'Éternel a menacé le peuple. Donc Baruch va lire tout le livre de Jérémie en public devant le peuple, et puis il va aller au palais du roi pour le lire devant le roi. Baruch, fils de Nerijah, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre des paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Le roi envoya, donc c'est le roi maintenant, envoya Jéhuda pour prendre le livre. Jéhuda le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès de toi, du roi. Donc, toutes les autorités du pays lisent le livre que Baruch a écrit. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Au feu de cheminée, il se fait lire le livre de Jérémie. Lorsque Jéhuda eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Et il fait ça avec tout le livre. Pendant 1 ou 2 heures, on lui lit le livre de Jérémie, et le roi prend son canif et il déchire tout le livre et il le jette. Tout ce travail des heures et des heures de Baruch, toutes les prophéties de toute la vie de Jérémie dans le feu. Jérémie, qu'est-ce qui arrive? Jérémie prit un autre livre, et le donnait à Baruch, fils de Nerija, le secrétaire. Baruch y écrivait sous la dictée de Jérémie, encore une fois, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Oui, il est facile de se déprimer quand personne n'écoute. Il est facile de dire « malheur à moi, j'aurais voulu avoir un impact plus grand ». Il est facile de se déprimer quand le roi jette tout notre travail d'une vie dans le feu. Mais voilà, Baruch maintenant se ressaisit. Il regarde le royaume de Dieu. Il regarde Dieu. Il regarde la grâce de Dieu qui le sauve à travers toutes ces situations. Et il écrit encore. Il met la parole de Dieu en évidence pour qu'elle soit encore annoncée et qu'elle en sauve les élus. Nous allons chanter un chant qui parle du fait que nous aussi, nous voulons être au service de Dieu, quelle que soit la crise, quelle que soit la situation décourageante. David va reprendre les contrôles et mettre le chant devant vous.